Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian et je suis heureux de vous retrouver. Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique. Aujourd'hui, nous continuons notre étude sur la deuxième épître de Pierre. Stéphane est de retour parmi nous pour nous aider à comprendre cette lettre peu connue et nous dire pourquoi il est important de saisir son message. Stéphane, bonjour.
Merci Ian et bonjour à tous. Lors de nos deux dernières émissions, en suivant les raisonnements de Pierre, nous avons appris que les écrits des prophètes et des apôtres que nous trouvons dans la Bible sont entièrement dignes de confiance. Et si quelqu'un enseigne quelque chose en contradiction avec la Bible, il vaut mieux ne pas l'écouter. En fait, Pierre a écrit sa lettre, entre autres, pour mettre ses lecteurs en garde contre les faux enseignants qui cherchent à s'infiltrer dans les églises. Dans le texte que nous allons écouter aujourd'hui, l'apôtre aborde ce problème plus directement avec des paroles percutantes. Avant d'en dire plus, nous allons céder la parole à notre lectrice et écouter la lecture du chapitre 2 de la deuxième lettre de Pierre, versets 1 à 9.
Autrefois, il y a eu des prophètes de mensonges parmi le peuple d'Israël. Il en sera de même parmi vous. Ces enseignants de mensonges introduiront subtilement parmi vous des erreurs qui mènent à la perdition. Ils renieront le maître qui les a rachetés et attireront ainsi sur eux une perdition soudaine. Beaucoup de gens les suivront dans leur immoralité et à cause d'eux, la voie de la vérité sera discréditée. Par amour de l'argent, ils vous exploiteront avec des histoires de leur propre invention. Mais il y a longtemps que leur condamnation est à l'œuvre et que la perdition les guette. En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché. Il les a précipités dans l'abîme où ils sont gardés pour le jugement, enchaînés dans les ténèbres. Il n'a pas non plus épargné le monde ancien lorsqu'il fit fondre le déluge sur ce monde qui n'avait aucun respect pour lui. Il a néanmoins protégé Noé, qui appelait ses contemporains à mener une vie juste, ainsi que sept autres personnes avec lui. Il a condamné à la destruction les villes de Sodome et de Gomorre, en les réduisant en cendres, pour donner à ceux qui se révoltent contre lui un exemple de ce qui leur arrivera. Il a délivré Lot, cet homme juste qui était consterné par la conduite immorale des habitants débauchés de ces villes. Car, en les voyant vivre et en les entendant parler, cet homme juste qui vivait au milieu d'eux était tourmenté jour après jour dans son cœur intègre à cause de leurs agissements criminels. Ainsi, le Seigneur sait comment délivrer de l'épreuve ceux qui lui sont attachés et réserver ceux qui font le mal pour le jour du jugement où ils seront châtiés.
Merci. Il est vrai que ce sont des paroles percutantes. Par où voulez-vous commencer ?
Pierre commence par affirmer tout simplement que, tout comme il y a eu dans le passé des prophètes qui ont annoncé des mensonges, les faux prophètes ou les faux enseignants existeront toujours. Il veut avertir les églises de cette triste réalité pour les aider à reconnaître de telles personnes. En effet, les églises doivent faire preuve de discernement.
Et c'est avec ces mêmes motivations que nous ressentons le besoin d'aborder ce sujet.
Oui, tout comme l'apôtre Pierre, notre souci est d'avertir les églises et les préparer à faire face à ce fléau. Dans un monde où les idées se multiplient, où les hommes et les femmes cherchent à nous influencer, nous manipuler, nous voulons donner à l'Église du discernement. Il est important d'aider les croyants à reconnaître les faux enseignants pour qu'ils puissent les éviter. Il est aussi nécessaire d'encourager les chrétiens à rester fidèles aux vérités clairement déclarées dans la Bible.
Nous sommes conscients que l'enseignement de Pierre est percutant et qu'il peut remettre certaines personnes en question. Notre désir, comme Pierre, est de protéger l'intégrité de l'Église et d'assurer le bien-être spirituel des croyants. Stéphane, comment identifier un faux enseignant ? Que dit Pierre ?
Dans le texte que nous avons lu aujourd'hui, je relève deux motivations malveillantes qui poussent ces personnes à enseigner des mensonges.
D'accord, et quelles sont-elles ?
La première mauvaise motivation est celle de l'immoralité sexuelle. Pierre avertit les églises en affirmant des enseignants qui annoncent des mensonges. Beaucoup les suivront dans leur immoralité. ces faux enseignants étaient poussés par leur désir sexuel non maîtrisé. Ils s'adonnaient eux-mêmes à l'immoralité sexuelle. Et de surcroît, ils encourageaient les croyants à faire de même. Ils n'avaient pas honte de promouvoir l'immoralité sexuelle. Ils enseignaient un genre de libertinage, autrement dit l'idée que l'on peut faire de son corps ce que l'on veut, que cela n'est pas mauvais et que personne n'en vivra les conséquences.
Oh, ces attitudes et croyances sont en contradiction avec la Bible entière.
Oui, du début jusqu'à la fin, la Bible dénonce l'immoralité sexuelle comme un péché. Toute personne qui encourage l'immoralité sexuelle s'oppose aux prophètes et aux apôtres. Elle s'oppose également à l'Esprit de Dieu, qui a inspiré ses écrits.
Mais comment définir l'immoralité sexuelle?
D'abord, je voudrais préciser et affirmer que la sexualité fait partie de notre humanité créée par Dieu. Autrement dit, les relations sexuelles sont bonnes, mais seulement lorsqu'elles ont lieu dans un contexte que Dieu permet, c'est-à-dire le mariage. Selon la Bible, seuls les couples mariés peuvent jouir au sein de leur couple de ce beau cadeau des relations sexuelles. Ainsi, toute jouissance de relations sexuelles qui a lieu en dehors du mariage est considérée, selon la Bible, comme de l'immoralité sexuelle. Pour être clair, cette interdiction de l'immoralité sexuelle couvre la fornication, l'adultère, la pratique de relations homosexuelles, la visite de prostituées et l'usage de la pornographie. Si un soi-disant prophète, pasteur ou une autre personne enseigne que le chrétien a la liberté de s'adonner à ces pratiques, il est, il faut le dire, un enseignement de mensonge. Il ne faut ni l'écouter ni le suivre.
Merci Stéphane. Et quelle est la deuxième motivation des faux enseignants que vous vouliez évoquer?
Selon Pierre, c'est l'amour de l'argent. Un amour excessif de l'argent peut conduire un soi-disant pasteur ou prophète à manipuler et à exploiter les croyants en ayant recours à des enseignements mensongers. Alors avant de continuer, je voudrais faire une précision importante.
Oui, laquelle?
Selon le Nouveau Testament, il est normal que les croyants dans une église fassent des dons pour subvenir aux besoins de leur pasteur et lui permettre de vivre convenablement. Cependant, le pasteur ne doit pas être motivé par l'argent. La vraie motivation doit être celle du service. Son appel, sa motivation est de servir Jésus tout en servant l'église. Le pasteur a besoin d'argent pour vivre, mais il doit se contenter d'un niveau de vie assez modeste.
Comment reconnaître alors un pasteur qui est plutôt motivé par l'amour de l'argent?
Je pense à quelques attitudes et comportements problématiques. D'abord, je dirais qu'un pasteur qui a ou qui aspire à un train de vie qui dépasse de loin celui mené par des gens de son assemblée est motivé par l'amour de l'argent. Il me semble inconcevable, par exemple, qu'un pasteur se déplace en voiture de luxe alors que les membres de son église se déplacent pour la plupart en mobylette ou en vélo. Il me semble inconcevable qu'un pasteur vive dans une villa de rêve équipée d'une piscine, alors que la plupart des gens de son assemblée vivent dans des taudis. Ensuite, je dirais qu'un pasteur qui exerce une pression excessive, culpabilisante ou miroitante sur son assemblée pour obtenir des dons, est motivé par l'argent. Un pasteur qui cherche à s'enrichir sur le dos des personnes pauvres dans son assemblée agit mal. Il vit en contradiction avec la Bible. S'il est vrai que le chrétien est appelé à être généreux, il ne faut pas abuser de cette qualité chez les autres à des fins personnelles et intéressées. Il est trop facile de dispenser un enseignement tordu et ainsi d'exploiter le croyant en vue d'obtenir des gains financiers. Il est trop facile de manipuler les croyants en faisant miroiter des promesses de prospérité. Ces promesses sont supposées être bibliques, mais elles sont en réalité des promesses mensongères. Elles ne profitent à personne, sinon aux faux enseignants lui-même. Nous regrettons de devoir dire que les prédicateurs du dit évangile de la prospérité semblent être motivés par l'amour de l'argent, et ils attisent chez les autres ce même amour de l'argent. Mais la Bible nous enseigne que notre priorité est d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain, et que l'amour de l'argent nous écarte de ses priorités.
Merci Stéphane. Dans la suite du texte que nous avons lu, l'apôtre Pierre parle du jugement qui attend ces enseignants de mensonges.
C'est vrai, Ian, il s'agit d'un avertissement solennel. Souvent, ces enseignants de mensonges semblent jouir d'une belle vie et ils donnent l'impression de bien s'en sortir. Pierre rappelle qu'il s'agit là d'une apparence, car leur situation ne va pas durer, car Dieu finira toujours par juger de telles personnes. On trouve également un grand encouragement dans ces versets. le rappelle que Dieu finit toujours par délivrer et sauver celles et ceux qui lui restent fidèles.
Et Pierre cite trois situations où un jugement similaire a déjà eu lieu.
Oui, souvent ces faux enseignants pensent s'en sortir indemnes. Ils pensent que Dieu ne les jugera pas. Et nous aussi, nous pouvons, en les regardant, douter du jugement de Dieu. Alors Pierre cite ces trois occasions, d'une part pour avertir les enseignants de mensonges, et d'autre part pour fortifier notre foi en un Dieu qui établira un jour sa justice.
Rappelez-nous les trois cas de jugement que Pierre cite.
Eh bien d'abord, il affirme que certains anges se sont rebellés contre Dieu, et que maintenant ils sont enchaînés quelque part dans les ténèbres, en attendant le jugement final. Ensuite, Pierre cite deux incidents que nous trouvons dans l'Ancien Testament, et précisément dans le premier livre de la Bible, celui appelé la Genèse. Il cite le cas de Noé et de sa famille. Dieu avait annoncé par la bouche de Noé qu'il allait anéantir le monde par un déluge. Noé devait construire une arche, un genre de grand navire destiné à le sauver lui, sa famille et des couples d'animaux. Ce jugement avait été annoncé car toute l'humanité était tombée dans le mal, la méchanceté, la violence, l'immoralité. En ce temps-là, tous se riaient de Noé et tous pensaient qu'il racontait des bêtises. Cependant, Dieu avait fini par envoyer un déluge sur le monde et les seuls rescapés de ce jugement catastrophique se trouvaient dans l'arche que Noé avait construite. Ensuite, Pierre cite l'exemple des villes de Sodome et de Gomorrhe. Ces villes étaient connues pour leur immoralité sexuelle et la vie débauchée de ses habitants. Dieu a annoncé le jugement sur ces villes, et les seuls à avoir été épargnés étaient un homme appelé Lot, sa femme et ses filles. Lot était le seul homme juste, le seul homme de foi que Dieu a trouvé parmi les habitants de ces deux villes. Ces exemples nous rappellent que Dieu est à la fois juge et sauveur.
Merci. Et comment voulez-vous conclure notre discussion ? Quelle leçon retenir ?
D'abord, je lance un appel aux enseignants de mensonges. Vous courez vers la perdition, mais il n'est pas encore trop tard. Vous avez encore l'occasion de vous repentir, et il vaut mieux se repentir aujourd'hui même, en renonçant à vos comportements et vos enseignements immoraux. Et puis, aux croyants, je dis ceci. Je sais qu'il y a des gens qui vous incitent à courir après le sexe ou après l'argent. Il faut refuser de les suivre, convaincu qu'il s'agit là de mensonges et que leur voie mène à la perdition. Il faut rester fidèle à Dieu et à ce qu'il a révélé dans la Bible, car Dieu est notre Sauveur merveilleux.
Merci Stéphane pour ces leçons importantes et pour cet enseignement à rester fidèle, même si beaucoup autour de nous courent pour écouter les faux enseignants. La prochaine fois, nous poursuivrons notre étude sur cette deuxième lettre de Pierre. En attendant de vous retrouver, je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.